Bonjour, mon nom est Monique Polony. Bienvenue à la formation en ligne sur la gouvernance offerte par la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Joindre un conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif, c'est une décision importante qui va au-delà de la volonté de donner de son temps. Il y a des responsabilités liées à cet engagement et des règles à suivre. Ça peut sembler compliqué, voire même intimidant parfois. Pour mieux comprendre en quoi consiste la gouvernance, j'accueille Hélène Cameron, qui est une spécialiste dans le domaine. Madame Cameron, vous la connaissez peut-être, elle possède plus de 40 ans d'expérience dans des domaines comme l'éducation, la santé, comme enseignante, administratrice et consultante. Elle a œuvré à la mise sur pied et à la gestion d'organismes francophones pendant de nombreuses années, ce qui lui a donné l'occasion de bien connaître la communauté francophone de la Colombie-Britannique. Bonjour Hélène Cameron.
Bonjour Monique.
Commençons par le conseil d'administration.
Bien Monique, qui parle gouvernance doit comprendre le rôle du conseil d'administration. C'est ce qu'on appelle le groupe de personnes élues ou nommées pour gouverner votre association. Le conseil d'administration, ou le CA, est chargé de prendre des décisions qui assurent, premièrement, le bon fonctionnement et l'efficacité de l'organisme et, deuxièmement, la mise en œuvre des orientations adoptées par les membres aux assemblées annuelles. On appelle ces personnes des administrateurs ou administratrices et les règlements de l'association précisent la composition du CA, c'est-à-dire le nombre d'administrateurs ainsi que leurs fonctions.
Alors, tous les postes ne sont pas nécessairement équivalents. Certains administrateurs auront des fonctions précises.
Oui, effectivement, il y aura d'habitude 3 ou 4 personnes qui sont affectées à des postes formels qu'on appelle exécutifs. On les réserve, par exemple, au président ou à la présidente, au vice-président ou la vice-présidente, au trésorier ou à la trésorière et au secrétaire ou la secrétaire. Ces administrateurs seront élus ou nommés à ces postes selon les règlements. Par exemple, on peut élire 7 personnes au CA et c'est le CA qui nomme les administrateurs au poste formel ou exécutif.
Parlons justement des documents importants, qui sont très importants en fait, qui servent de guide au conseil d'administration.
Bien, je crois que les documents les plus utiles sont les statuts et règlements, le plan stratégique, le cahier des politiques et les procès-verbaux, donc 5 en tout. En premier lieu, il y a les statuts et règlements. Ça, c'est la Bible de votre organisme et je ne peux pas trop vous encourager à les lire et relire, et surtout si vous êtes au CA. On parle souvent des statuts et règlements comme si c'était un seul document, mais en fait, c'en est deux. Les statuts, un court document d'une page d'habitude, définissent l'organisme et son champ d'action, ce que l'organisme a l'intention de faire, les limites de ses actions et qui, en général, serait membre.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple?
Oui, certainement. S'il s'agit des statuts d'une garderie, par exemple, une garderie francophone où il y aurait un statut où on précise le nom de l'organisme, le fait que c'est une entité sans but lucratif qui offre des services de garde aux enfants et aux familles d'une région particulière. Ces buts seraient énoncés, par exemple, on dirait que l'organisme veut offrir à la communauté francophone d'une région particulière un centre pré- et parascolaire pour les enfants d'un certain âge pour qu'ils bénéficient d'un programme d'activité et d'un environnement unilingue francophone. Les statuts seraient enregistrés au gouvernement provincial dans le cas d'un organisme à but non lucratif et aussi au fédéral dans le cas d'un organisme de bienfaisance qui désire fournir des reçus d'impôts.
Vous avez parlé de règlement. À quoi ça sert, les règlements?
Les règlements exposent les règles et procédures qui touchent, par exemple, les assemblées générales, la membriété, le rôle, la composition et les procédures du CA, le mandat des administrateurs et les modes de financement. Le contenu minimum du document est déterminé par la loi. En Colombie-Britannique, c'est « The Societies Act of BC » et les membres peuvent les modifier. Bon, il y a souvent des problèmes qui surviennent quand les statuts et règlements n'ont pas évolué avec l'organisme. Il peut y avoir eu, par exemple, des changements au champ d'action ou dans le nombre ou la description des postes au CA ou la durée d'un mandat ou les procédures à l'Assemblée générale. Donc, c'est une bonne idée d'évaluer les statuts et règlements chaque année pour juger s'il y a des révisions à recommander à l'AGA, l'Assemblée générale annuelle. D'autres problèmes peuvent surgir quand les administrateurs ignorent les statuts et règlements et font à leur tête.
En quoi sert le plan stratégique? C'est quoi son utilité?
Le plan stratégique, c'est un document important parce qu'il expose la planification à long terme, où s'en va l'organisme et comment il propose s'y rendre. On y trouve donc la mission, la vision, les valeurs, les priorités et les orientations stratégiques de l'organisme. Et une fois qu'il est développé, le plan est approuvé par le CA et recommandé aux membres lors de l'AGA.
Et il en reste un quatrième. Ça fait beaucoup. Ça fait même presque un peu peur. Comme je disais au début, c'est un peu intimidant. Mais allons-y. Le quatrième, c'est le cahier des politiques. Pourquoi un cahier des politiques?
Bien, les cahiers et les manuels sont indispensables. Oui, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses à lire et à relire, mais quand on était au CA un bon bout de temps, on vient à connaître ces documents. Bon, pour les cahiers, il y a plein de modèles pour les manuels de l'administrateur, mais au minimum, le manuel devrait contenir le cahier des politiques. C'est celui-ci qui régit le fonctionnement de l'organisme. Donc, il s'agit de pratiques de gouvernance qui encadrent la vision, la mission, les valeurs et les orientations stratégiques qu'on trouve dans le plan stratégique, et aussi encadrent la direction et la gestion de l'organisme et le fonctionnement du CA lui-même. Le CA est tenu d'évaluer l'application et l'impact des politiques et en assurer leur révision régulière pour répondre aux besoins changeants de l'organisme.
Le document qu'on connaît le plus, c'est probablement les procès-verbaux, qui sont en fait la mémoire de l'organisme. Parlez-nous de l'importance, justement, des procès-verbaux.
Oui, justement, les procès-verbaux conservent les travaux des réunions et des assemblées qu'on a déjà eues. Pour un nouveau membre du CA ou de la direction, même la lecture des procès-verbaux peut nous éclairer sur l'historique de l'organisme et de son évolution, y compris des moments difficiles. En effet, Monique, je suis de l'avis que les CA qui vivent des moments difficiles sont souvent préoccupés par le style et le contenu des procès-verbaux. Et cette préoccupation peut être un symptôme de problème au CA. On y reviendra.
Alors voilà ce qui concerne les documents. Dans une prochaine capsule, nous allons parler d'efficacité.